Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est quoi? J'entends pas là. Il y a quelqu'un qui a dit un arbre. Est-ce que quelqu'un a une autre proposition? Une forêt, carrément. Oui. La forêt. En fait, il s'agit bien d'un arbre. Un arbre, oui. Vous ne voyez pas bien la taille de cet arbre-là, mais peut-être que là, vous voyez bien le tronc. Ah, vous avez un banc à côté de l'arbre qui vous donne la dimension du tronc. Ah, il est gigantesque. Là, mais là, on commence à partir de là. Ça va jusque-là. On a creusé une route pour que les voitures puissent passer sous l'arbre. Alors, il y a déjà un arbre qui existe comme ça, qu'on appelle le baobab. On n'est pas en Afrique, Esther. Non. Voilà, le séquoia qui est très très grand. C'est pas un séquoia. Je ne sais pas si vous connaissez cet arbre-là. Je vous montre un petit peu plus rapproché. Merci Pierre-Mathieu. C'est un banyan. Le banyan, c'est un arbre qui est gigantesque au niveau du tronc, mais encore plus impressionnant, c'est un arbre qui s'étend sur une distance impressionnante. Si on pouvait parler de l'envergure de l'arbre, c'est le plus grand qui existe au monde. Je crois qu'il peut atteindre jusqu'à 100 mètres d'une branche à l'autre. C'est incroyable. Moi, j'ai eu le privilège d'en voir un en Floride. C'est celui-ci. Je vous montrerai la preuve tout à l'heure que je l'ai bien vu, hein. C'est un arbre qui a une particularité, c'est que les branches ne montent pas vers la hauteur, mais à l'horizontale. Et donc, une branche peut faire 30, 40 mètres. Mais imaginez une branche qui va pousser à l'horizontale. Vous voyez bien les branches là-bas? Et là, vous allez le voir mieux. Vous voyez? À l'horizontale. Mais cet arbre qui pousse à l'horizontale, la branche 30, 20 mètres, qu'est-ce qui va arriver? Elle va casser. Alors, miracle incroyable et leçon spirituelle très importante pour nous, c'est que cet arbre-là, au fur et à mesure que la branche avance, un morceau de la branche descend vers la terre pour s'introduire dans la terre, se rigidifier et devenir un support. En fait, c'est une racine. Et donc, ce que vous voyez là, ce sont des racines qui permettent à l'arbre de se développer au fur et à mesure. La branche avance, elle fait sortir une racine, ça la consolide, elle avance encore un petit peu, elle fait ressortir une racine, et ainsi de suite. C'est extraordinaire. Et quand j'étais en Floride avec Samuel au mois de février, j'ai vu cet arbre-là et j'étais en train de réfléchir sur le thème, vous voyez de quoi je veux parler, des racines pour toucher le ciel. Et quand j'ai vu cet arbre-là, je me suis dit, ça c'est vraiment une belle leçon spirituelle pour nous les chrétiens. Nous voulons grandir, nous voulons avancer, nous voulons nous étendre, mais nous avons besoin à chaque fois de fournir des racines, de développer des racines qui nous permettent de grandir et de devenir un peuple majestueux, de devenir des individus, des croyants qui ont une vie qui suscite l'admiration. Pourquoi pas? Parce que quand vous voyez cet arbre-là, vous êtes ébloui et vous allez vous rester des heures et des heures devant. Donc c'est vraiment un arbre qui s'étend énormément. Si tu veux toucher le ciel, va profond dans la terre. C'est une leçon qui est valable pour n'importe quel être humain. Nous sommes tous appelés à nous développer humainement et les chrétiens sont appelés à se développer spirituellement. Mais quelle que soit ta place en tant qu'être humain, en tant que chrétien, cet arbre te parle en te disant, tu as besoin de développer des racines, de les faire pousser, de les faire grandir afin que ta vie soit en constant développement. Parce que le Seigneur, nous les chrétiens, il nous appelle à grandir constamment. il n'y a pas un moment dans notre vie où nous dirons stop, on ne peut plus grandir. On a atteint le top niveau, c'est impossible. Et en tant qu'être humain, c'est pareil. Peu importe l'âge, on a tout le temps besoin de développer notre être intérieur, notre personnalité, notre caractère, les vertus que nous pouvons avoir, les qualités que la grâce nous accorde, peu importe que nous soyons croyants ou pas croyants. Et ce que je veux vous dire ce matin, c'est que la parole de Dieu, dans la Bible, il est très souvent question de cet encouragement de la part de Dieu. Grandissez, mais attention, n'oubliez pas de développer l'essentiel. Parce que l'essentiel, ce sont ces racines spirituelles qui nous permettent de nous élever vers le ciel. Plus profondes seront nos racines, plus stables nous serons, plus élevés nous pourrons devenir et donc être dans la proximité de Dieu. Jusqu'à présent, nous avons parlé de beaucoup de choses, mais nous n'avons pas parlé de ces moyens que Dieu met à notre disposition pour nous permettre de développer nos racines. Qu'est-ce que Dieu t'a accordé comme outil spirituel pour bêcher le sol, pour retourner la terre, pour arroser ses racines, pour les nourrir afin qu'elles puissent grandir au fur et à mesure? Peut-être que vous êtes embêté par la colère. Vous vous mettez facilement en colère contre vos enfants. Comment est-ce que je peux développer plus de patience dans ma vie? Comment est-ce que je peux développer plus de connaissances de Dieu dans ma vie? Comment est-ce que je peux développer la maîtrise de moi, la maîtrise de soi? Comment est-ce que je peux faire grandir cette racine qui est l'amour, l'amour fraternel, l'amour pour les autres? Peut-être que vous aspirez à une relation profonde avec le Christ, mais en même temps vous vous rendez compte que vos racines sont fragiles, ne sont pas assez nourries. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour que cela le devienne? Le Seigneur a mis à notre disposition des moyens de grâce qui nous permettent de grandir. Peut-être que certains moyens vous viennent à l'esprit. Si je vous posais la question, vous allez penser aux moyens les plus courants. Mais ce matin, je voudrais partager avec vous sept moyens qui ne viennent pas forcément à l'esprit, mais qui sont vraiment fondamentaux pour nous, pour que nous puissions, en les pratiquant, grandir constamment devant Dieu. Et certains moyens sont valables, que je sois croyant ou non. D'autres, sont nécessaires pour moi en tant que chrétien, parce que ce sont des moyens spirituels. Ce sont des moyens spirituels qui développent des racines spirituelles. Bon, de prime abord, comme ça, à quoi vous penseriez comme moyen? La prière, oui. Oui, Esther. La lecture de la parole, l'évangile, oui. Ce sont vraiment les disciplines spirituelles dont on parle. On va en parler rapidement. Et il y en a d'autres. Donc, je prends avec vous les sept moyens, dont certains, ce ne sont pas forcément ceux à quoi on pense le plus rapidement. Le premier moyen, c'est un enseignement pratique de la parole de Dieu. Là, je ne parle pas de ma lecture personnelle, mais je parle de la communauté à laquelle j'appartiens qui va m'aider à voir comment je peux pratiquer la parole de Dieu. Et donc, les enseignements qui sont apportés dans notre Église, en tout cas, c'est ce que moi je voudrais. Ce n'est pas simplement une théologie qui parle à la tête, mais c'est une théologie qui se traduit en action et vous montrer comment on peut vivre la parole de Dieu de manière régulière. La parole de Dieu, entendue et pratiquée, nous permet vraiment de grandir. Nous avons deux passages que nous allons lire. 1 Pierre chapitre 2, verset 2. Bon, vous le connaissez peut-être par cœur. Désirez ardemment, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur de la parole, afin que, c'est ça le plus important, afin que vous croissiez par lui. Qu'est-ce qui me fait grandir? La parole de Dieu, l'enseignement de la parole de Dieu. Mais je vais grandir quand cet enseignement est mis en pratique. Parce que si je me contente de l'entendre, cela ne me servira de rien. Et c'est pour cela que Jacques nous rappelle de ne pas nous contenter d'écouter la parole de Dieu, mais de la mettre en pratique. Jacques 1, c'est pas 18, c'est 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Donc, la première chose que Dieu met à ma disposition, c'est l'enseignement de la parole dans l'Église, dans la communauté à laquelle j'appartiens. Et cet enseignement, c'est un enseignement qui est concret. Chaque fois que nous prêchons la parole de Dieu, que nous faisons des études, et à n'importe quel niveau, avec les petits, avec les grands, avec les jeunes, c'est pour dire, voilà ce que Dieu dit, et voilà comment vous pouvez traduire ça en pratique dans votre vie. Parce que un discours sur Dieu, ce sera une pure théorie. Un discours qui ne fait pas référence à Dieu et à la théologie, ce ne sera que du moralisme. Mais la traduction de ce que Dieu est, la traduction de ce que la parole dit de Dieu, dans notre vie de tous les jours, ça c'est le plus important. Et ce que nous entendons, dimanche après dimanche, mardi après mardi, vendredi après vendredi, bah Dieu nous appelle à le mettre en pratique. Et ça, ça va nous faire grandir au fur et à mesure. Deuxième moyen, c'est la prière. Mais je ne parle pas de la prière que moi je fais. Je parle de la prière. C'est quoi l'autre possibilité? Je n'ai pas entendu, Esther.
La prière que les autres font.
Voilà, la prière que les autres font pour moi. Ce qui me fait grandir aussi, c'est la prière des autres à mon égard. Nous négligeons peut-être cet aspect, mais nous avons besoin de nous tourner les uns vers les autres. De temps en temps, il y a des choses très importantes dans notre vie. Des décisions urgentes à prendre, des choix difficiles à faire, une question de travail, des souffrances dans le travail, comme Jean-Patrick l'a partagé. Et se tourner vers des frères et sœurs en leur disant, j'ai vraiment besoin de vous, j'ai besoin d'un soutien, j'ai besoin que vous m'aidiez. Ou alors, le besoin de grandir en demandant, mais priez pour moi parce que je veux me développer dans tel domaine. J'ai besoin de me développer dans telle vertu, dans telle qualité. Priez pour moi. La prière des autres est essentielle. L'apôtre Paul a prié pour les églises à chaque fois qu'il leur a écrit. Il n'y a qu'une seule fois où il n'a pas prié au début de ses lettres, c'est quand il a écrit aux Galates. Mais à toutes les autres églises, il a commencé par rendre grâce et par formuler des prières de développement et de croissance à l'égard de ces églises à qui il écrivait. Et nous, en tant que communauté, nous prions les uns pour les autres. Donc je ne parle pas de la prière individuelle qui est importante, je parle de la prière collective qui peut se faire à deux ou trois dans nos maisons quand nous nous invitons les uns les autres. C'est important de prendre le temps en disant « mais prions les uns pour les autres. Prenons un moment pour prier les uns avec les autres. » Quand il y a les groupes de vie dans les maisons, c'est important que ce soit une prière les uns pour les autres. Le mardi, Quand il y a réunion de prière, on prie pour l'église, on prie les uns pour les autres. Et ça, ça nous fait grandir, ça nous fait avancer. Et le dimanche matin, lors de nos cultes, quand nous prions, il y a des prières, ça vous est déjà arrivé d'entendre des prières qui vous ont profondément touché. C'est une personne qui prie, mais c'est une personne qui va être l'instrument de Dieu pour toucher les autres par cette prière-là, qui va nous parler, qui va nous encourager. Amen. Troisième chose, les relations providentielles. Nous avons tous des relations. Nous sommes tous en relation. Mais il y a des relations providentielles. Le mot providentiel renvoie à l'action de Dieu par rapport à cette relation. Autrement dit, ce ne sont pas des relations qui vont s'établir par hasard, mais ce sont des relations que Dieu va provoquer. Et Dieu va nous connecter avec une personne ou une autre à un moment donné, parce qu'il sait que à ce moment-là, nous aurons besoin d'être encouragés et donc de développer notre vie et de grandir. Amen. Vous pouvez parfois être dans une situation où vous avez besoin de faire un choix. Et Dieu va s'arranger pour mettre sur votre chemin quelqu'un qui vit dans la même situation ou qui a vécu la même situation. Et son expérience va devenir pour vous un enrichissement, un apport qui va vous permettre de faire le bon choix, de grandir. Amen. Les relations providentielles sont un moyen très important entre les mains de Dieu pour nous faire grandir les uns par les autres. Et nous pouvons vraiment dire à Dieu, j'ai besoin que tu mettes sur mon chemin une personne qui va m'aider à grandir. Une personne qui s'appelait Amertume. Enfin, elle voulait s'appeler Amertume. Elle disait, ne m'appelez plus Mara. Ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Amertume. C'était une dame dans le chagrin, dans la tristesse. En fait, elle voulait dire quoi? J'ai pas envie de vivre.
C'est ça.
Voilà, j'ai pas envie de vivre. Et qu'est-ce que Dieu a fait?
Il a mis
une personne qui s'appelait
Ruth,
tout près d'elle. Ruth, c'est la providence de Dieu à l'égard de Naomi.
Amen.
Ruth, c'était la belle-fille de Naomi. Pour ceux qui ne connaissent pas la Bible, Naomi, c'est une dame dont l'histoire est racontée dans l'Ancien Testament. Et cette dame a vu ses enfants mourir et elle s'est retrouvée à l'étranger toute seule et elle a désespéré. Et Dieu a mis une belle sœur sur son, une belle fille sur son chemin qui va être d'un soutien incroyable puisque elle va lui dire, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu iras, j'irai. Et puis cette femme, Ruth, est restée attachée à Naomi pendant des années et des années. Et à la fin de la vie de Naomi, elle pouvait dire, je ne veux plus qu'on m'appelle Mara.
Alléluia.
Je veux être appelée Naomi. Parce que Dieu a mis une femme sur son chemin. Mais nous avons tous besoin dans notre vie d'une Ruth à un moment donné. Mais les Ruths peuvent varier. C'est pas forcément toujours la même personne. Je peux vivre une expérience avec une personne par la providence de Dieu. 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans après, je peux rencontrer quelqu'un d'autre. Et ces expériences-là vont m'enrichir, ces relations vont m'aider à grandir. Mais c'est important aussi d'être soi-même une Ruth pour les autres.
Alléluia.
C'est-à-dire que non seulement Dieu place sur mon chemin quelqu'un qui va être un encouragement, mais moi-même, Dieu peut me placer sur le chemin de quelqu'un. Je dis « peut ». Non. Dieu me place sur les chemins des autres pour que je sois un encouragement. Mais le fait d'être Ruth me fait grandir moi aussi. Parce que Ruth n'a pas aidé seulement Naomi à grandir, elle a aussi, elle, grandi dans cette expérience et elle a été bénie par son engagement à l'égard de Ruth, à l'égard de Naomi. Donc vous voyez, les relations providentielles, ce sont ces moments précieux de la part du Seigneur pendant lesquels il met sur notre chemin quelqu'un ou alors il nous met sur le chemin de quelqu'un pour que soit nous recevions de la part de quelqu'un, soit nous donnions à quelqu'un qui a besoin de direction, de développement, de croissance dans sa vie spirituelle.
Amen.
Ça vous parle ça? On continue alors.
Merci.
Alléluia, Esther.
Alléluia.
Les relations providentielles. Si vous voulez noter un passage, 1 Thessaloniciens 5, chapitre 11, qui dit « Encouragez-vous, exhortez-vous les uns les autres comme vous le faites déjà. » 1 Thessaloniciens 5, verset 11. Le quatrième moyen dont nous disposons et qui nous permet de grandir, qui nous fait grandir et développer nos racines, ce sont les circonstances de la vie, plus particulièrement les épreuves. Alors, quand on parle de ça, on ne pense pas que ça nous fait grandir, n'est-ce pas? Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, qui est une bonne nouvelle en même temps. Dieu a choisi les épreuves comme moyen de développement des racines. Que nous l'acceptions ou non, ça ne change rien, c'est un fait. Et quand on a fait l'expérience de ces choses-là, nous le savons au fond de nous-mêmes, que l'épreuve nous fait grandir. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Ben, la parole de Dieu nous dit « Regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être confrontés. » Jacques 1, 2 et 3, je relis ce verset, ces quelques versets avec vous. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Le résultat est le plus important. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Donc l'épreuve porte un résultat. Si nous voulons la patience, Dieu nous envoie une épreuve. Ne priez pas pour la patience, hein. Si vous n'êtes pas prêt à accepter l'épreuve. Le Seigneur Jésus lui-même a appris l'obéissance. Par quel moyen? Si on faisait un QCM, le Seigneur Jésus a appris la patience, et vos cochez, ou l'obéissance, par le dialogue avec les autres, le soutien des disciples, la prière tous les soirs. Qu'est-ce que vous allez choisir?
Le soutien des disciples.
Ben non. En fait, je ne l'ai pas dit. C'est la souffrance. Hébreux chapitre 5. Il a appris, bien qu'il soit le Fils de Dieu, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Autrement dit, la souffrance a produit l'obéissance à l'égard de Dieu. Quand vous priez pour l'obéissance à Dieu, pour la soumission, attendez-vous à l'apprendre par des moyens qui ne sont pas faciles. Parfois, c'est pas systématique, mais Dieu nous envoie les épreuves, les circonstances de la vie pour nous rendre plus forts. Vous connaissez le proverbe, tout ce qui ne me tue pas
me rend plus fort.
Eh bien, quand une épreuve de la vie ne me détruit pas, parce que malheureusement, ça peut arriver. Il y a des croyants qui vont abandonner parce qu'ils ne voient pas justement que la circonstance dans laquelle ils ont vécu, dans laquelle ils se trouvent, a pour objectif de les faire grandir. Ils croient qu'elle a pour objectif de les détruire et donc ils se laissent aller. Mais si nous savons d'avance que ce qui nous arrive, c'est dans le plan de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi?
Amen.
C'est dans le plan de Dieu. Parce que Pierre dit, il vaut mieux souffrir, c'est telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Et il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu. Donc, dans la volonté de Dieu à notre égard, il peut y avoir un moment de difficulté, de souffrance, d'épreuve difficile. Et ce que nous avons besoin de voir, c'est le résultat de ces épreuves-là. Si Dieu les permet, si Dieu nous fait passer par ces difficultés, il a un objectif. Ce n'est pas la souffrance elle-même, c'est le résultat qu'elle va produire. Et donc mon développement, ma croissance, un arbre qui va résister au vent, ça va le rendre plus solide. Quand il est secoué par l'épreuve, ses racines vont se fortifier davantage pour s'accrocher au sol et résister à chaque fois. Je continue. Le numéro 5, moyen qui nous permet de nous développer et développer nos racines devant Dieu. C'est notre environnement. Est-ce que vous savez que nous pouvons, enfin pas nous, mais que les arbres, que les plantes peuvent avoir des racines pourries? Il y en a plein, hein? Il y a certains, ils peuvent avoir un arbre, ils ne voient rien, l'arbre est beau de l'extérieur et puis du jour au lendemain, bloum! Parce qu'en fait, il y a des champignons qui s'attaquent aux racines et qui les dévorent. Vous ne voyez rien. Et les racines sont dévorées par ces champignons. Aujourd'hui, notre monde s'inquiète énormément de la pollution. Parce que la pollution ne fait pas seulement du mal aux humains, elle fait du mal à la nature. Il y a des arbres qui souffrent parce que ils grandissent dans un environnement qui est un environnement pollué, un environnement toxique. Et si nous voulons grandir en tant que chrétiens, ben nous avons besoin de réfléchir sur notre environnement. Dans quel environnement je suis en train de grandir en tant que croyant? Est-ce que je prends le temps de réfléchir à ceux que je côtoie? Vous savez que parfois, il faut faire le ménage dans sa vie. Il y a des gens, je peux vous le dire, hein, il y a des gens qui ne nous font pas du bien. Il y a des gens qui ne nous aident pas à grandir. Que nous soyons chrétiens ou non, parfois, on tombe sur des gens qui nous détruisent, qui nous tirent vers le bas au lieu d'être un soutien pour nous pour grandir vers le ciel. Ben, parfois, il faut faire le ménage. Parce que si nous restons à évoluer dans un environnement toxique, nous nous tuons. Nous nous asphyxions. Et là, je parle particulièrement aux jeunes. Faites le ménage dans votre vie. Parfois, c'est dur de faire le choix. Mais si tu ne le fais pas aujourd'hui et maintenant, il sera trop tard plus tard. À un moment donné, on est déjà dans l'asphyxie. On ne peut plus respirer. La toxicité de notre environnement nous a déjà pénétré. Et donc, il vaut mieux agir avant que cela ne commence. Vous connaissez le proverbe? Les mauvaises
compagnies corrompent les bonnes mœurs.
Est-ce que c'est un proverbe? C'est un proverbe, hein? Mais en fait, c'est un verset de la Bible. Mais oui. 1 Corinthiens 15, 23. 1 Corinthiens 15, 23. Le Seigneur nous dit. C'est pas 23, c'est... Je crois que je me suis trompé. Voilà, c'est 33, excusez-moi. 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ah, vous pouvez être impeccable. Vous pouvez être saint d'esprit et de tête. Mais si vous vous placez dans un environnement toxique, vous finirez par être atteint, que vous le vouliez ou non. On ne joue pas avec le feu. On finit par être brûlé. Et Dieu nous dit, prenez garde à votre environnement. Parfois, nous pouvons trouver quelqu'un et il ne va pas nous aider à grandir. Et je parle honnêtement et franchement, parfois même un chrétien peut être un obstacle pour notre développement. Eh bien, il faut dire, non, je ne veux pas t'entendre, je ne veux pas que tu me parles, je ne veux pas que tu parasites mon esprit. Si c'est pour me bousiller la tête, si c'est pour me remplir la tête de racontards, de choses qui ne sont absolument pas utiles, je ne le veux pas. Parce que au fond, ça n'aide pas à grandir. Bon, je continue parce que le temps passe. Le ministère personnel. Ça, c'est le sixième moyen que le Seigneur met à notre disposition. Un arbre est un arbre de qualité quand il est un arbre pour les autres. Quand il est un arbre qui permet, par le fruit qu'il porte, de nourrir et de partager. Et le chrétien est un chrétien qui va se développer, qui va grandir quand il sera un chrétien dont la vie n'est pas une vie pour soi, mais une vie pour Dieu et donc pour les autres. Vous ne pouvez pas vivre pour Dieu si vous ne vivez pas pour les autres. Et Dieu nous a appelés tous à mettre le don qu'il nous a accordé au service des autres. Dans l'église, dans nos maisons, dans notre travail, là où Dieu nous place, il nous dit, si tu veux t'épanouir, si tu veux grandir, sois un instrument de bénédiction pour les autres. Fais en sorte que Dieu t'utilise pour que les autres soient touchés par cette grâce que Dieu a mise dans ta vie. 1 Pierre 4,10. L'apôtre Pierre écrit aux chrétiens en leur disant, comme des dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. J'en ai déjà parlé, mais c'est très important de bien voir que Dieu nous accorde des qualités et des dons particuliers, non pour nous-mêmes, mais pour aider les autres à grandir. Et du coup, quand je suis au service de Dieu, je réponds à la vocation que Dieu a pour moi. Et répondre à la vocation, être dans la vocation de Dieu pour moi, c'est grandir automatiquement. C'est contrairement aux antibiotiques, c'est ça, hein? C'est pas automatique, mais non, là c'est vraiment automatique. Quand je me mets sur le chemin que Dieu veut pour moi, pour être instrument de bénédiction pour les autres, je grandis automatiquement. La dernière chose, ce sont les disciplines spirituelles. Dans les disciplines spirituelles, je mets la méditation de la parole, la prière, c'est-à-dire la prière personnelle. Quand je me place dans ma chambre, dans ma salle à manger, quand je suis dans la solitude, quand je prie, ça me fait grandir et ça aide mes racines à se développer pour être dans la communion et dans la proximité du Seigneur. Il y a beaucoup de disciplines spirituelles, la pratique du jeûne, la prière, la méditation de la parole, la solitude, la retraite, et ainsi de suite. Et Dieu nous appelle à mettre ces choses-là en pratique si nous voulons grandir. Alors, je n'en dis pas plus parce que le temps est passé, mais juste pour vous dire que quand Dieu met à notre disposition tous ces moyens, encore faut-il que nous les pratiquions. Encore faut-il que nous les vivions. Parce que, imaginez que vous ayez un vélo dans votre garage, comme nous. Il y a un beau vélo, tout neuf. Que vous ayez un tapis roulant. Que vous ayez même une salle de sport chez vous. Au bout d'un an, vous reviendrez et on dira, waouh, qu'est-ce qu'il s'est gonflé, qu'est-ce qu'il est devenu fort. C'est pas automatique, là. Hein?
Non.
Hein? On deviendra très sportif à la condition que nous ayons
pratiqué,
n'est-ce pas? Et ce que Dieu nous appelle, c'est de nous entraîner. De nous entraîner. Parce que mon tapis, mon vélo, si je le fais une fois par an, je resterai toujours aussi maigrichant que je le suis aujourd'hui. Mais si je fais ça tous les jours, je vais développer mes muscles et grandir. Si je veux devant vous là, imaginez, hein, je viens, il y a une barre de 100 kilos. Vous me voyez là, hein? Je crois que je pourrais pas bouger le truc. Hein. 100 kilos, c'est hors de ma portée. Mais si vraiment je voulais atteindre ça, porter 100 kilos, est-ce que c'est possible? Peut-être trop tard maintenant. Quand j'avais 20 ans. Est-ce que c'est possible? C'est possible, mais à la condition que je m'entraîne. Mais je ne vais pas commencer par les 100 kilos, je vais commencer par les 20 kilos. 30, 40, 50, et finalement j'arriverai à 100 kilos. Donc il y a un entraînement à pratiquer pour être capable de grandir, de se développer. Parfois, il y a certaines choses que nous ne sommes pas capables de faire comme ça d'un coup. Quelqu'un qui n'a pas la pratique de la prière, il ne va pas commencer à prier d'une manière incroyable du jour au lendemain. Non, il y a une manière de faire, il y a des méthodes, il y a un entraînement pour que cela soit possible. Là, c'est ce que nous appelons la discipline ou alors l'entraînement ou alors l'exercice. C'est ce que Paul dit à Timothée entraîne-toi plutôt à rester attaché à Dieu. Ou autrement dit, dans une autre traduction, exerce-toi plutôt à la piété. Exerce-toi à la piété. L'exercice physique est utile à peu de choses. La piété, elle, est utile à tout puisqu'elle possède la promesse de la vie pour le présent et pour l'avenir.
Amen.
Voyez-vous, quelqu'un voulait apprendre du piano. Et donc, il a fait des gammes. Et au bout de 6 semaines, la personne voulait déjà jouer du Chopin. Je ne vous dis pas qui, hein. Sinon, vous allez me dire encore, bah tiens, il en a après sa belle-mère, mais c'est pas... Oh. Excuse-moi, Betty, je l'ai dit.
Amen.
Si vous voulez, si vous entendez un grand pianiste en train de jouer un morceau incroyable, vous avez l'impression que c'est tellement facile, yaka. Il s'est levé le matin, il a dit, tiens, je vais jouer... La 9e symphonie de Beethoven, c'est incroyable. En fait, pour arriver à ça, qu'est-ce qu'il a fait?
Beaucoup d'exercices.
Des gammes et des gammes et des gammes, des heures et des heures et des heures. Mais est-ce que les gammes ont été faites pour elles-mêmes? Non, les gammes sont un moyen pour arriver à jouer le morceau final. Et la discipline, c'est un moyen, ce n'est pas le but en soi. C'est le moyen qui va nous permettre de mettre en œuvre le but final. Comme je disais, si mon but c'est de lever 100 kilos, je vais avoir le moyen de commencer par 20. La discipline, ça va être une phrase compliquée, hein, vous écoutez bien. Hein. La discipline de manière générale, là je parle à n'importe quel être humain, chrétien ou non. C'est une activité que je suis capable de faire par mes forces directement, afin de devenir capable de faire ce que je n'étais pas capable de faire par mes forces directement.
Alléluia.
Vous avez suivi?
Oui, pasteur.
Bon, je recommence. La discipline, c'est une activité que je vais faire parce que je suis capable de la faire par mes forces de manière directe. Exemple. Je suis capable, par mes forces, directement, de lever 20 kilos. Mais je ne fais pas ça pour rien. Je fais ça afin d'être capable de faire en sorte, ou non, d'accomplir ce que je n'étais pas capable de faire auparavant. Donc, de lever les 100 kilos. Dans l'activité spirituelle, une discipline, c'est une pratique que je suis capable de faire qui va me rendre capable de faire autre chose que je ne suis pas capable de faire maintenant. Par exemple, tout de suite là, je ne suis pas capable de ne pas éclater en colère contre mes enfants. Ou alors, je ne suis pas du tout capable d'être patient. Eh bien, pour atteindre la patience, je vais mettre en place des choses que je suis capable de faire qui vont me rendre capable plus tard d'être patient et de développer la patience. On reviendra sur ça à une autre occasion. Je m'arrête là, nous allons prier. Seigneur, nous voulons te bénir pour ta grâce, pour ta bonté, pour ta miséricorde. Tu es le Dieu béni. Tu nous as donné tant de choses pour que nous grandissions devant toi. Ton plaisir, c'est de voir ton peuple avancer sur le chemin de la paix et s'approcher chaque jour de toi. Et nous voulons vraiment vivre dans ta proximité, notre Père. Viens nous soutenir, viens nous donner la force de mettre en pratique ces moyens, de nous aider, Seigneur, à être un peuple entraîné, un peuple exercé à la piété. Louange à toi pour tout. Amen.